Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si l'inquiétude était au fondement même de notre société? Et si à l'origine de nos discours sur la nécessité de vivre ensemble et sur le bien commun se trouvait un aiguillon particulier, un instinct de survie qui nous conduirait à nous allier aux autres plutôt qu'à les combattre? Alors notre conception de la vie politique changerait radicalement. Alors nous deviendrions cyniques et intéressés. Mais alors peut-être verrions-nous l'État pour ce qu'il est. Notre seule voie de survie. C'est le philosophe Thomas Hobbes qui le dit et qui va nous accompagner aujourd'hui.
À l'orée de cette campagne, où pendant des semaines, je vais beaucoup donner, je vais beaucoup recevoir et peut-être beaucoup payer, je veux que chacun d'entre vous soit convaincu de la farouche détermination, de l'énergie infinie que j'irai puiser dans la part la plus profonde de moi-même, pour faire triompher la cause qui nous unit. Aujourd'hui, je le sais, je n'ai pas le droit de vous décevoir. Je n'ai pas le droit d'hésiter. Tout simplement parce que je n'ai pas le droit d'échouer. Je dois gagner, gagner pour vous, gagner pour la France.
Oser avancer, pouvoir être soi et respecter. Garder son passé, y trouver de quoi aimer marcher ensemble.
Ensemble, tout devient possible si on y croit,
si on, y croit.
Si on le veut. Ensemble, tout devient possible si on est là, si on le veut.
Bonjour Luc Foineau.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous dirigez la mention études politiques de l'EHESS et vous êtes l'auteur de Hobbes, la vie inquiète chez Gallimard. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Est-ce qu'on peut dire que le slogan « Ensemble, tout devient possible » qui était le slogan de l'UMP, de son candidat pour les élections présidentielles en 2007, Nicolas Sarkozy, est un slogan d'inspiration hobbésienne?
Vous m'avez surprise avec cette musique, cette chanson. On a l'impression d'ailleurs que c'est très loin, que c'est très très loin déjà.
Ben, ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans et ça renvoie également à une dimension de la vie politique que Hobbes n'avait pas nécessairement présente à son esprit, qui est la rapidité avec laquelle les programmes se succèdent aux programmes et qui fait qu'on a parfois, disons, des difficultés à se dire, mais au fait, quel est le président de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ou comment s'appelle-t-il déjà l'actuel? Donc, est-ce que ensemble tout devient possible est un slogan d'inspiration hobbesienne? Pas vraiment, en fait. J'aurais envie de dire non. Non, c'est pas la notion de possible n'est déjà pas une notion très hobbesienne. Il faut se souvenir que Hobbes est l'auteur des questions concernant la liberté, la nécessité et le hasard. Et ce qui est important dans le titre, c'est la nécessité. Donc, ensemble, nous sommes ensemble parce que c'est nécessaire.
C'est ça.
Il y a une nécessité à vivre ensemble, mais je ne pense pas que Hobbes aurait été séduit par le slogan de Nicolas Sarkozy.
Bien au contraire, c'était le sens de sa diffusion pour ouvrir l'émission. Si on déplie même ce qu'on a entendu de la part du candidat de l'époque, Nicolas Sarkozy, et même la chanson, on y entend une des problématiques qui occupe Hobbes et qui va nous occuper aujourd'hui, qui est celle de savoir comment vivre ensemble alors que nous sommes en désaccord total sur la manière dont il faut vivre. Et ça, c'est la question politique par excellence.
Tout à fait. C'est la question politique par excellence, j'ai envie de dire, depuis que Hobbes l'a pensé comme question politique. Hobbes s'inscrit lui-même dans un contexte politique très particulier, qui est un contexte extrême, qui est le contexte de la disparition progressive de l'unité d'un peuple à travers, disons, la guerre civile anglaise. Et la question qui le préoccupe est une question à la fois politique et morale. Sa question est politique et morale dans la mesure où son point de départ est de savoir comment il est possible de construire une unité politique à partir de conceptions de la vie bonne, résolument opposées, comme pouvaient l'être les conceptions, disons, des acteurs de la vie politique de la Révolution anglaise, entre, je les cite à dessein pour, disons, actualiser le propos, les puritains qui sont des millénaristes, des gens qui pensent et qui croient que la fin du monde est proche. Or, il y a aujourd'hui, alors dans un contexte différent, celui de la crise écologique, des gens qui pensent également que la fin du monde est proche. Et ces puritains pensent la politique à partir de la catastrophe imminente. La possibilité d'une catastrophe imminente, mais dans le même contexte, il y a des gens qui ne partagent pas du tout cette vision du monde, et il y a surtout une pluralité de conception de la vie bonne, c'est-à-dire à travers des religions elles-mêmes différentes, qui rendent nécessaire de repenser la question de l'unité politique. Sur quelle base va-t-on pouvoir penser la politique si nous ne sommes d'accord sur presque rien?
C'est là où on en arrive au thème de l'inquiétude, et je reprends le titre de votre livre, hein, Hobbes, la vie inquiète, qu'on trouve aux éditions Gallimard, puisque l'inquiétude est à la fois au principe de notre insociabilité, ce qui fait que nous voulons nous écarter des autres qui nous inspirent de la méfiance, puisqu'ils sont autant d'obstacles potentiels à l'acquisition, à la satisfaction de nos propres désirs, et en même temps, c'est ce qui nous conduit à vivre ensemble, précisément parce que, au nom d'un intérêt bien compris, Hobbes nous montre comment nous avons tout intérêt, même à titre individuel, de nous en remettre à une instance collective représentée par l'État plutôt que de vivre seul. L'inquiétude est des deux côtés.
Absolument. L'inquiétude ou la crainte, parce que le lexique hobbesien de la peur est assez large, en fait. Il utilise le terme d'anxiété, anxiety en anglais. Il utilise également le terme de peur, the fear. Et il utilise également, il n'utilise pas, et c'est pour ça que c'était un peu une provocation de sous-titrer l'ouvrage La vie inquiète, il n'utilise pas directement le terme d'inquiétude. C'est Locke qui utilisera ce terme, qui forgera un terme anglais « uneasiness », l'idée qu'on n'est pas tout à fait à l'aise. C'est ça qu'on entend dans « uneasiness ». Mais Hobbes lui-même n'utilise pas le terme directement. Simplement, la palette, son vocabulaire est assez large, et en creux, on voit surgir chez Hobbes ce concept-là. Mais, pour revenir à votre remarque, effectivement, c'est la grande thèse d'anthropologie politique de Hobbes qui introduit une rupture majeure par rapport à ce que l'on disait jusqu'alors du fondement de la politique, consiste à dire nous ne formons pas des entités politiques parce que nous sommes amis les uns des autres, ou parce que nous nous aimons les uns des autres, ou parce que nous aimons le genre humain à travers nos prochains, etc. Nous formons des entités politiques parce que nous avons peur les uns des autres. Et donc, c'est une thèse extrêmement paradoxale sur laquelle il revient dans une note, une remarque de 1647, de son ouvrage qui s'appelle le Dekiwe du citoyen, et où il essaie d'expliquer cette chose-là. Comment est-il possible de concevoir que nous nous rapprochions les uns des autres politiquement, alors même que notre relation première à autrui est une relation qui devrait nous conduire à nous en éloigner, une relation de peur, de crainte. Eh bien, la réponse qu'il nous donne à cette question-là, c'est que il ne faut pas confondre la crainte dont il parle, qui est une passion rationnelle, qui nous conduit en quelque sorte à élaborer un raisonnement à l'aide duquel ou à partir duquel nous allons nous rapprocher d'autrui, et l'effroi, la panique ou la terreur. Donc, il y a de la rationalité dans cette passion qui est la crainte, et c'est parce que je crains autrui et que je considère autrui comme mon égal que je suis conduit à cette idée que je suis obligé, en quelque sorte, si je veux survivre, de passer une sorte de pacte avec autrui.
Pour bien comprendre ce que vous dites et ce que dit Hobbes, il faut rappeler, et c'est ce que fait Hobbes au début de son ouvrage qui s'appelle « Le Léviathan », ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie de Hobbes, à savoir comment l'homme, de quoi l'homme est-il constitué, comment se meut-il. Hobbes a une conception mécaniste de ce qu'on appelle aujourd'hui le désir humain. L'homme est entièrement mu par un désir qu'il souhaite satisfaire. Or, ce désir n'est jamais pleinement satisfait, ou dès lors qu'il l'est, il en cherche un autre. Si bien que cette course-poursuite vers le désir le conduit comme la trajectoire d'une pierre que l'on lancerait, eh bien l'homme part à la poursuite de son désir, et dans cette poursuite-là, chaque individu qui l'entoure est un obstacle. C'est pour ça qu'on retient souvent de Hobbes cette phrase, disant que finalement l'état dans lequel nous vivons, c'est un état de guerre de chacun contre chacun. Il faut avoir ça en tête pour comprendre ensuite cette espèce de, peut-être de miracle, en tout cas de tour de force, qui consiste à pouvoir constituer un État auquel nous nous soumettons tous.
Absolument, c'est très juste de présenter les choses comme vous le faites, c'est-à-dire que la vision du monde aussi, la vision de la politique de Hobbes s'appuie sur une vision du monde. Et cette vision du monde est nouvelle. On l'a oublié parce que c'est la nôtre depuis plus de 400 ans maintenant. Mais cette vision est entièrement nouvelle. C'est une vision qu'on peut caractériser en utilisant les termes de l'anthropologue Philippe Descola comme une vision naturaliste qui est en rupture assez nette avec l'analogisme que connaissaient les penseurs de la Renaissance. Cette vision naturaliste nous dit que notre monde est composé exclusivement, et le exclusivement a des conséquences religieuses bien évidemment importantes, exclusivement de corps en mouvement. Si nous sommes des corps en mouvement, effectivement, et ces corps en mouvement ne peuvent jamais être totalement au repos. Donc il y a dans la nature elle-même, dans le monde composé de corps en mouvement, une inquiétude qu'on pourrait presque dire métaphysique, si l'expression n'était pas tout à fait juste pour Hobbes, donc je retire ce que je viens de dire, mais il y a une sorte d'inquiétude physique, non pas métaphysique, mais physique, de cet univers de corps en mouvement. Et cette inquiétude physique se retrouve dans le corps que nous sommes, hein, puisque nous sommes des corps en mouvement. Hein, cette dimension des êtres humains comme corps en mouvement est une dimension qu'on oublie alors qu'on passe notre temps à voyager, à se déplacer, qu'on ne reste jamais deux secondes au même endroit, etc. Et même dans le sommeil, nous bougeons. Hein, c'est une chose bien connue. Donc il y a cette mobilité qui est caractéristique de notre corps. Et cette mobilité va se traduire dans nos passions à travers un certain nombre de désirs qui vont effectivement être à l'origine de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire cette interaction entre ces corps en mouvement que nous sommes, qui conduit à poser un certain nombre de questions, des questions morales, mais aussi des questions politiques. Comment va-t-on faire pour penser une organisation politique permettant à ces corps en mouvement de vivre en paix les uns aux autres, puisque ce que vous décriviez, la situation de ce corps qui en pousse un autre, nous ne sommes pas des boules de billard tout de même. Hein, il y a une grande différence entre nos corps en mouvement et nos interactions et celle des boules de billard, exemple fameux de la physique du XVIIe siècle. Donc il faut penser cette différence également qu'il y a entre nous, êtres de désir, et les corps en mouvement qui se heurtent les uns les autres. Comment se fait-il qu'au lieu de nous rapprocher les uns des autres, nos passions, nos désirs nous éloignent ou nous conduisent dans des situations de conflit, de rivalité que Hobbes décrit très bien et notamment à travers ce concept, hein, c'est pas une image, ce concept qui est le concept d'état de nature qui est probablement sa plus grande invention conceptuelle, ou plus exactement la plus grande invention conceptuelle, c'est l'invention de la différence qu'il y a et qu'il nous faut penser entre un état de nature dans lequel précisément, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de souverain, et ce qu'il appelle l'État civil.
Ça veut dire que l'inquiétude est une sorte de revers du désir, en réalité. Nous sommes inquiets parce que nous désirons et que ce désir n'est jamais comblé. Sinon, il n'y a plus de désir. Le désir, par définition, a besoin du manque pour exister. Dès lors qu'il est comblé, il n'y a plus de place pour le désir lui-même. Ça veut donc dire que l'inquiétude est inséparable de notre condition d'être humain, même si Hobbes n'emploierait pas forcément cette phrase-là. Écoutons-le, écoutons comment Hobbes décrit la manière que nous avons chacun d'entre nous de chercher le bonheur ou la félicité comme étant, eh bien non pas un état de fait, mais la marche en avant qui consiste à nous conduire vers la satisfaction du désir. Écoutez ce texte interprété par la comédienne Nicole Garcia.
Il faut considérer que la félicité en cette vie ne consiste pas dans le repos d'un esprit satisfait, car n'existe en réalité ni ce but dernier, ni ce bien suprême dont il est question dans les ouvrages des anciens moralistes. Celui dont les désirs ont atteint leur terme ne peut pas davantage vivre que celui chez qui les sensations et les imaginations sont arrêtées. La félicité est une continuelle marche en avant du désir, d'un objet à un autre, la saisie du premier n'étant encore que la route qui mène au second. La cause en est que l'objet du désir de l'homme n'est pas de jouir une seule fois et pendant un seul instant, mais de rendre à jamais sûr la route de son désir futur. Ainsi, je mets au premier rang, à titre d'inclination générale de toute l'humanité, un désir perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir, désir qui ne cesse qu'à la mort. La cause, ce n'est pas toujours qu'on espère un plaisir plus intense que celui qu'on a déjà réussi à atteindre, ou qu'on ne peut pas se contenter d'un pouvoir modéré, mais plutôt qu'on ne peut pas se rendre sûr, sinon en acquérant davantage le pouvoir et les moyens et les pouvoirs dont dépend le bien-être qu'on possède présentement.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et le clavecin de Henry Purcell. À l'occasion de cette émission sur Thomas Hobbes, le philosophe Hobbes, nous parlons d'inquiétude cette semaine, de la vie inquiète selon Hobbes aujourd'hui. Et nous venons d'entendre un texte, un extrait du Léviathan de Hobbes sur la félicité comme cette continuelle marche en avant du désir en votre compagnie, Luc Foineau, qui allait nous expliquer ce texte. En fait, la discussion qu'on a eue jusqu'à présent nous permettait de comprendre chaque mot de ce texte, qui est toujours assez agréable hein, quand on ouvre un ouvrage de philosophie. Si on est les concepts qui ont été définis avant, finalement, on comprend tout. Le bonheur, ou ce qu'il appelle la félicité, est une marche en avant. C'est pas un repos, c'est pas un état de fait.
Et pour autant, cette affirmation du début du texte, il faut considérer que la félicité en cette vie ne consiste pas dans le repos d'un esprit satisfait. C'est la phrase d'ailleurs que j'avais mise en épigraphe à mon livre. Cette affirmation est très paradoxale. Cette affirmation ne va pas de soi. Alors, si elle nous semble aller de soi aujourd'hui, c'est peut-être parce que Hobbes a modifié aussi la manière dont nous pensons le bonheur et nous pensons la félicité. Mais la première chose, à mon sens, qu'il faut dire et sur laquelle il faut insister, c'est le fait que Hobbes, en disant cela, s'oppose de manière directe, frontale, à ce qui était considéré comme la définition reçue du bonheur depuis l'Antiquité, mais c'est une définition également que Montaigne reprendra à son compte, l'idée selon laquelle être heureux, c'est être dans un état de tranquillité d'esprit.
De paix.
De paix. De paix, d'ataraxie. C'est pas pour rien que un antidépresseur s'appelle l'ataraxe. C'est-à-dire l'absence de trouble. Donc la définition que les épicuriens, les stoïciens et les sceptiques donnent du bonheur et va dans le sens où consiste à dire que être heureux, c'est ne pas être troublé. Ce que Hobbes nous dit, c'est que ne pas être troublé, c'est ne pas être heureux. Donc, en quelque sorte, il prend le
contre-pied. C'est ne pas être tout court.
C'est ne pas être tout court. Et il compare également cette idée. Être privé de désir, c'est ne pas être tout court. Être privé de désir, on ne peut pas être heureux si on n'a pas de désir. Et il nous dit, il est aussi difficile de penser un être privé de désir que de penser un être privé de sensations et de mémoire. Et je pense qu'ici, très directement dans cette citation, dans cette phrase, il s'oppose à la tradition sceptique. La tradition sceptique considérait effectivement qu'il était possible de s'abstraire, de mettre entre parenthèses ses jugements, sa sensation, etc. Et qu'il était possible effectivement de vivre dans un état de non-troublé. Et je pense que les deux choses étaient liées. Donc il faut penser le lien entre les deux. C'est-à-dire, pour les sceptiques, se débarrasser des troubles, ça suppose également d'être capable de mettre entre parenthèses notre capacité de jugement. Or, Hobbes répond aux sceptiques, il n'est ni possible de cesser de juger, de cesser de sentir et de cesser d'utiliser sa mémoire. Il n'est pas plus possible de cesser de réfléchir ou de juger de cette manière-là que de cesser de désirer. Donc il associe les deux choses.
Ainsi, dit-il, je mets au premier rang, à titre d'inclination générale de toute l'humanité, un désir perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir, désir qui ne cesse qu'à la mort. On entend un écho ici avec la voix qui a ouvert cette émission, qui était la voix du candidat Nicolas Sarkozy, qui disait vouloir tout faire pour gagner cette course que lui-même allait mener au nom de tous. Et absolument. Finalement, ce faisant, il est exactement dans cette lignée que décrit Hobbes, qui est notre façon d'être au monde.
Oui, qui est une façon d'être au monde aussi, qui apparaît, qui est notre façon d'être au monde. Vous avez raison d'insister sur ce point, c'est-à-dire la vie comme une course.
Oui. La politique ne serait qu'un versant, mais il illustrerait de quoi elle est faite.
La politique ne serait qu'un versant, effectivement, et dans l'exemple que vous avez pris, le leader politique étant celui qui va conduire ceux qui le suivent dans cette course. dans cette course au pouvoir. Donc effectivement, on a cette même image qui sert également, et le bonheur politique finalement, c'est de l'emporter. Hein.
Mais même si du coup, dans une logique qui est celle de Hobbes, on a du mal à comprendre comment on peut se mettre au service de quelqu'un d'autre, suivre quelqu'un, suivre le désir de quelqu'un qui n'est pas nous.
Oui, alors là, la difficulté, effectivement, on est sur deux plans, donc c'est pour ça que ma réponse était un petit peu inquiète. Et je pense qu'effectivement, le modèle que Hobbes a présent à l'esprit, c'est le modèle de l'individu. Donc la course, le modèle de la course, qui lui permet de définir les différentes passions, c'est un modèle qui oppose des individus les uns aux autres. Et la situation, disons, évoquée par le candidat Sarkozy, c'est celle de quelqu'un qui prétend parler au nom d'autres personnes. Donc on est déjà là, à l'intérieur de la structure du parti politique, dans une logique qui est une logique de représentation. Mais pour Hobbes, la seule représentation qui vaille, hein, il se méfiait beaucoup des partis, il voyait les partis comme des factions, la seule représentation qui vaille, c'est la représentation de l'État.
Donc il faut ici, en venir à l'État quand même.
Pour en venir à l'État, mais c'est bien d'en venir à l'État, de prendre des détours pour comprendre effectivement la fonction de cette notion dans la pensée de Hobbes. Mais la chose qui paraît importante effectivement, c'est de se dire le gros problème de Hobbes, c'est d'arriver à penser l'unité d'un collectif alors même que la réalité, de ce point de vue-là, il est nominaliste, il n'y a que des corps singuliers et son nominalisme a aussi une version sociologique. Il n'y a que des individus. Donc comment des individus, soucieux eux-mêmes de leur propre bonheur, vont-ils accepter, pour quelles raisons vont-ils accepter de considérer une personne ou une assemblée comme étant leur représentant ? Avec la force que cette notion a chez Hobbes, qui est une représentation, on pourrait dire, totale. Il ne s'agit pas d'un mandat, il s'agit d'une représentation totale. Quand j'ai conféré à mon représentant ce pouvoir, certes, je l'autorise, mais c'est lui qui agit et qui parle en mon nom. Et je ne peux pas dire « Ah non, là, je ne suis pas d'accord avec vous », etc. Pour revenir à la situation que nous connaissons, nous élisons des représentants, et notamment des présidents de la République. Et ensuite, disons, la politique pendant les cinq années de leur mandat, c'est en quelque sorte de s'opposer. Donc, nous n'acceptons plus une représentation totale, y compris dans la durée limitée de nos démocraties. Ce qui dit quelque chose aussi sur notre rapport à la représentation et la manière dont le concept de représentation s'est transformé depuis Hobbes.
Bah, ce que vous dites, c'est que l'État est moins fort aujourd'hui qu'à l'époque de Hobbes. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que pour Hobbes, plus l'État est fort, oui. plus la politique peut fonctionner, puisqu'en dernière analyse, c'est l'État. On doit se défaire d'une forme de... Alors, liberté, là encore, le terme n'est pas propre à Hobbes, mais quand même d'instance de décision, et se soumettre à l'État qui va décider pour nous, puisque c'est la seule façon de garantir ce qui est l'obsession de Hobbes, à savoir la paix. Il écrit quand même dans un contexte de guerre civile sanglante, et le but est de faire en sorte que paix il puisse y avoir. Et bien pour cela, il faut que l'État non seulement soit présent, soit fort et effraie, puisque finalement Hobbes a jusqu'à montrer que si les hommes obéissent à l'État, c'est parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ont peur que l'État les tue.
Absolument. Oui, la violence politique est au cœur de la réflexion de Hobbes et la façon dont il pense l'État. Alors, c'est une manière compliquée parce que, en fait, c'est compliqué, c'est très simple. Il reprend le modèle de la souveraineté à Bodin, le modèle de la souveraineté qu'on a beaucoup interprété et transformé et détourné de sa signification première correspond à quelque chose d'extrêmement simple. C'est de dire, il faut le détenteur, celui qui fait la loi, possède également, détienne un pouvoir suffisant pour pouvoir faire appliquer la loi. Donc l'obsession de Hobbes, c'est que la loi qui a été votée ou choisie par un monarque absolu, puisque sa préférence allait à la monarchie absolue et non pas à une forme représentative de démocratie, il faut que la loi adoptée puisse être appliquée. Or, pour que cette loi puisse être appliquée, il faut qu'on dispose effectivement d'une puissance suffisante pour la faire appliquer.
Ça veut dire que nous obéissons aux lois parce qu'un État est capable de nous y contraindre et que la contrainte de l'État est finalement la seule façon de peut-être dissiper notre inquiétude. C'est
absolument.
Là où la boucle est bouclée.
Oui, absolument, tout à fait, c'est très juste. C'est-à-dire que la crainte extrême qui règne dans l'état de nature, hein, et pensez, l'analogue de l'état de nature, c'est la guerre civile, hein, que votre voisin puisse vous tuer. Hein, pensons à ce qui s'est passé au Rwanda, hein, cette situation absolument épouvantable dans laquelle, effectivement, vos anciens voisins, disons, vous considèrent comme des ennemis à abattre, eh bien, pour faire face et repousser cette situation, il faut, selon Hobbes, qu'existe un pouvoir suffisamment neutre également par rapport aux différents partis pour faire appliquer une loi qui s'appliquerait à tous. Donc, la puissance de l'État et la crainte que l'État nous inspire, hein, il parle même de terreur. Mm. Oh. Donc, c'est un terme plus fort que la crainte. La terreur que l'État nous inspire est la condition politique de l'existence de la paix civile. Pour que nous puissions vaquer à nos occupations et jouir d'une certaine forme de liberté. Vous disiez que le terme n'était pas propre. Oui. Hobbes, bien évidemment, il y a un chapitre chez Hobbes, dans le Léviathan qui s'intitule de la liberté. Il y a donc une liberté possible. C'est la liberté de faire ce que la loi ne nous oblige pas à faire ou ne nous interdit pas de faire. Donc, cet espace de la liberté est la contrepartie de la puissance du souverain absolu. Donc, plus le souverain est puissant, plus il est capable de faire appliquer la loi, plus, d'une certaine manière, en tant que citoyen, nous jouissons de liberté.
Mais ça sonne comme la libide d'un dictateur, ce que vous êtes en train de dire. Alors, plus je suis fort, mieux je vous représente et plus vous pouvez vivre en paix. Donc laissez-moi tuer tous vos adversaires et ainsi vous jouerez de votre liberté.
Non, parce que chez Hobbes, y compris dans la structure, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Hobbes est un penseur de l'État, mais d'un État associé toujours au droit et à la loi. C'est ce que je voulais dire par le concept de souveraineté. Le concept de souveraineté que Schmitt a réinterprété dans un sens anti-baudinien, je parle ici
donc
de Jean
Carl
Bodin.
Schmitt, oui.
Carl Schmitt, le théoricien Carl Schmitt, a réinterprété le concept de souveraineté en lui faisant dire l'inverse de ce que l'inventeur de ce concept, Jean Bodin, et Thomas Hobbes, qui reprend à son compte ce concept, voulait dire. Pour Hobbes, la souveraineté, c'est la puissance au service d'un ordre juridique. Ce qui veut dire que le souverain n'a pas la puissance...
Il n'est pas au-dessus des lois.
Mais non, il a la possibilité de casser les lois, mais il agit par l'intermédiaire des lois à l'intérieur de la société civile. Donc le souverain produit des lois, les sujets connaissent ces lois et peuvent agir en fonction d'une loi. Le souverain serait despotique si... Une loi étant, disons, adoptée par lui, il, disons, s'opposer ou emprisonner ou tuer un citoyen ou une citoyenne, alors même que ce citoyen est resté fidèle à la loi. Donc ici, il y a
la souveraineté. Mais qui décide de la loi ? Est-ce que alors, le souverain est législateur ?
Le souverain est législateur dans la manière, mais la question du régime est une question différente. On parle ici de la structure, de la forme de l'État. La forme de l'État, c'est une forme qui est liée à ce dispositif de souveraineté. Ce dispositif de souveraineté peut, il faut le préciser, prendre différentes formes et s'accorder avec différents régimes politiques. Il peut s'accorder avec un régime, disons, monarchique absolu. Dans ce cas, le souverain et la reine en Angleterre ou le roi en France. Mais il peut s'accorder également avec un régime d'assemblée. Et donc, une assemblée peut disposer elle-même d'une souveraineté absolue. La seule différence, c'est que le souverain prend ses décisions en son âme et conscience, avec des conseillers la plupart du temps, mais c'est lui qui décide, alors que l'assemblée elle-même possède des règles d'organisation et de prise de décision qu'on associe, et Hobbes lui-même y insiste, c'est le chapitre au premier de mon livre, cette règle, c'est une règle de majorité. Donc les assemblées ont un mode de fonctionnement qui fait que la prise de décision passe par la règle majoritaire, mais cette règle ou cette loi qui a été adoptée grâce à ce dispositif qu'est celui de la règle majoritaire a une valeur aussi absolue que la loi ou le décret pris par Louis XIV lorsqu'il disait « voilà, parce que cela est mon bon plaisir ».
Donc il n'y a pas d'arbitraire dans l'exercice du pouvoir du souverain.
Il n'y a pas d'arbitraire. Le dispositif de souveraineté, l'idéal, hein, on parle ici de concept, hein, on ne parle pas de la réalité. La réalité
mais c'est
toujours
intéressant de confronter le concept à la réalité.
Absolument, mais c'est aussi très important d'avoir bien présent à l'esprit ce que souveraineté veut dire. Souveraineté veut dire la puissance au service de la loi. Exemple très simple. Lorsque la force de police est utilisée pour la mise en place ou l'application d'une loi et pas plus, on est dans le dispositif de souveraineté. Lorsque les forces de police vont au-delà de cette mission et, commettent un certain nombre d'actes de violence au nom de ce qu'elles sont, nous sortons du dispositif de souveraineté. En fait, ce que les premiers penseurs de la souveraineté ont pensé, c'est ça. Mais est-ce que c'est possible? Mais leur idée était celle-ci. On a besoin d'un dispositif de puissance. C'est ce dispositif de puissance qui fait l'État. Mais ce dispositif de puissance doit être exclusivement au service de l'application de la loi. Et s'il est au service de l'application de la loi, on est dans un État qui fonctionne bien et qui est, d'un certain point de vue, ce que l'on peut appeler un État de droit. Même si Hobbes n'est pas un théoricien des droits de l'homme, etc., mais c'est un penseur de la structure juridique de l'État. Et cette structure juridique, c'est ça, la puissance au service de l'application des lois. Si la puissance vise à produire des effets de pouvoir, vous évoquiez tout à l'heure ce terme, des effets de pouvoir qui sont des effets de pouvoir produits par des fonctionnaires au-delà de la mission qui est la leur, on sort du cadre du dispositif de souveraineté. Alors vous me direz, dans la réalité, lorsque l'on met en œuvre effectivement des dispositifs de violence, on sait très bien que la limite devient difficile et qu'on n'est plus, dans le cadre simplement conceptuel. Qu'est-ce que ça veut dire faire un bon usage de sa matraque?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Y a-t-il un usage légitime de la violence de l'État ou de ses représentants à l'égard des citoyens?
À l'égard des citoyens, et puis citoyens, alors là c'est le terme générique, c'est la communauté des citoyens. Après, on sait très bien que la communauté des citoyens est formée de gens effectivement qui sont différents, qui sont plus ou moins protégés par l'État. Et donc ça c'est une autre question. Mais le modèle, si vous voulez, de la structure de souveraineté, c'est que cet État mette sa puissance au service de l'application de la loi. C'est tout. Ce qui ne veut pas dire que dans l'ordre international, il procédera de la même manière. Et ça, de ce point de vue-là, Hobbes, c'est aussi intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il y a deux phases de la souveraineté. Il y a la face interne, celle dont nous venons de parler, et il y a la face externe. Chaque fois qu'on entend effectivement des analyses sur les relations internationales, on est saisi d'effroi. Parce que, comme le disait Stanley Hoffman, ces États, dans leurs relations, sont des monstres froids.
Vous employez le terme de monstre, et justement, Léviathan, c'est le terme qu'utilise Hobbes pour désigner l'État. Il a quelque chose à la fois de divin et de monstrueux.
Absolument. Alors, c'est toute la difficulté, parce que Hobbes a eu un coup de génie. On ne sait pas exactement pour quelle raison il a trouvé ce terme, mais en tout cas, c'est une idée très forte qui insiste. L'image du Léviathan, parce que c'est une image, c'est un monstre biblique qui est évoqué dans le livre de Job. Et l'image, c'était de dire l'État a la puissance du Léviathan. Mais l'idée n'était pas de dire l'État est un monstre. Et cette distinction est très importante. Ouais. Parce que si vous dites l'État est un monstre, immédiatement vous allez associer le travail de Hobbes à la théorie de l'État totalitaire, vous allez l'associer à des formes politiques auxquelles il ne pouvait pas penser et qu'il n'aurait pas souhaité et qui ne correspondaient pas à sa théorie de la souveraineté.
Bon, on n'entend pas la dimension contractualiste quand on parle de l'État comme un monstre.
Non.
Parce qu'on ne l'a pas précisé, il y a quand même cette soumission du citoyen, de l'individu à l'État, elle se fait quand même chope sous forme de contrat. C'est que le citoyen accepte que l'État décide en son nom, on ne lui impose pas ce pouvoir-là. Ce qui change tout, il y a quand même une forme de liberté à la base. C'est un contrat, donc il y a une liberté tacitement présupposée pour que l'État puisse advenir et être respecté.
Absolument. C'est-à-dire que Hobbes a deux idées géniales. Il a cette idée effectivement qui nous oblige à penser l'État comme une puissance infiniment supérieure à la nôtre. Nous obéirons à l'État parce que sa puissance est infiniment supérieure à la nôtre. Mais en même temps, nous avons de bonnes raisons d'obéir à l'État. Et ce sont ces bonnes raisons d'obéir à l'État, c'est une théorie des raisons, de la justification. Nous avons de bonnes raisons d'obéir à l'État parce que sans lui, du moins telle est la thèse de Hobbes, nous serions dans un état de guerre les uns avec les autres. Donc si je comprends bien ce que je suis en tant qu'individu à l'intérieur de cet état sans état qu'est l'état de nature, je ne peux que vouloir qu'il y ait un état. Du moins, c'est la théorie de Hobbes. Donc, c'est une théorie de la justification de l'État. Je ne suis pas dans un État parce que l'on m'a imposé cette structure-là, mais je suis capable de penser la rationalité, aussi le caractère raisonnable du fait que j'obéis aux lois qui sont celles de l'État. Donc, Hobbes nous amène à penser les deux choses. C'est une puissance considérable, c'est une puissance menaçante, c'est une puissance qui nous effraie, mais c'est en même temps une puissance que nous voulons, que nous appelons de nos voeux, que nous désirons. Il y a un désir d'État chez Hobbes, c'est quelque chose qui est très surprenant à beaucoup d'égards. Enfin, on a toujours l'impression qu'on est en butte, qu'on s'oppose à l'État. Et de fait, il y a des peuples qui s'opposent à l'État. Et il y a des gens en France qui, effectivement, souhaiteraient qu'il n'y ait pas d'État et qui le subissent plus que d'autres. Je pense par exemple au statut de gens qui ont des modes de vie alternatifs ou les nomades, les Roms, etc. Ces gens-là n'ont pas des modes de vie encouragés par l'État. Donc ils sont dans une sorte de porte-à-faux par rapport à la structure étatique. Mais le citoyen rêvé par Hobbes, le citoyen idéal, je ne sais pas si vous êtes cette citoyenne idéale,
qui sait.
Je ne suis pas sûr de l'être moi-même, mais ces citoyens idéaux sont des citoyens qui ont accepté le raisonnement de Hobbes et qui, au bout de leur délibération, se disent « Oui, il n'y a pas d'autre alternative, il faut que je désire l'État ». Donc nous avons...
Il faut que je désire l'État, déjà c'est contradictoire. On ne décide pas de désirer.
Oui, c'est juste. Mais dans le cadre, effectivement... Alors, on décide, c'est-à-dire, on peut se mettre dans les conditions qui nous conduisent à considérer l'État comme... souhaitable.
La moins pire des solutions, peut-être.
La pire des solutions étant la guerre civile.
Voilà, c'est toujours le contexte qu'il faut avoir en tête pour comprendre cette théorie de l'État fort selon Hobbes. On va écouter un autre texte ensemble, si vous le voulez bien, Luc Foineau. Par plaisir d'entendre cette langue, par plaisir d'entendre la voix de Nicole Garcia qui lit ces textes, et aussi par souci de faire avancer notre discussion. On a encore beaucoup de points à aborder. Le texte porte sur le souci de l'avenir. On le trouve dans un chapitre du Léviathan, le 12e chapitre, intitulé « De la religion », car oui, il faut aborder cette question-là. On a comparé l'État à un monstre, à une forme de Dieu. On a parlé de la puissance de l'État. Il est une autre puissance à laquelle l'homme, quel qu'il soit, aime aussi se soumettre. C'est celle de Dieu. Écoutez ce texte.
Il est impossible à un homme qui s'efforce continuellement de s'abriter des maux qu'il redoute et de se procurer le bien qu'il désire, de ne pas être dans un souci perpétuel de l'avenir. Aussi tous les hommes, et spécialement ceux qui voient le plus loin, sont-ils dans un état semblable à celui de Prométhée ? Car de même que Prométhée, dont le nom, une fois traduit, donne « l'homme prudent », était attaché sur le mont Caucase, endroit d'où la vue s'étend fort loin, et où un aigle, qui se nourrissait de son foie, dévorait le jour ce qui en renaissait dans la nuit, ainsi l'homme qui regarde trop loin, devant lui, par souci de l'avenir, a le cœur rongé, tout le jour, par crainte de la mort, de la pauvreté ou de quelque autre malheur. Et son anxiété ne connaît ni apaisement ni trêve, si ce n'est dans le sommeil. Cette crainte perpétuelle qui accompagne sans cesse l'humanité, plongée dans l'ignorance des causes et pour ainsi dire dans les ténèbres, doit nécessairement prendre quelque chose pour objet. C'est peut-être en ce sens que quelqu'un des anciens poètes a dit que les dieux ont d'abord été créés par la crainte humaine.
Nous avions perdu l'inquiétude de vue, ou plutôt fait croire que nous l'avions perdue, Luc Foineau, mais elle revient. Et comment ? Puisqu'elle est constitutive de la vie humaine, si l'on en croit Hobbes, on l'avait dit, l'inquiétude est le revers du désir. Elle se situe à l'origine aussi de la croyance en l'existence de la divinité. C'est aussi ça qui nous fait croire en Dieu. C'est parce que nous sommes inquiets peut-être que nous comprenons l'intérêt de l'État, mais c'est aussi parce que nous sommes inquiets que nous préférons croire en quelque chose qui donne un sens à ce que nous faisons, qui surtout nous promet qu'il y aura une autre vie après celle que nous vivons. Alors comment Hobbes peut-il concilier d'un côté la puissance de l'État et de l'autre la puissance de Dieu?
Merci, c'est une...
c'est une question qui vaut encore aujourd'hui d'ailleurs, qu'on se pose encore aujourd'hui.
C'est une question qui est... Mais dans ce texte-là, dans le texte qu'on a entendu, le terme qu'il utilise, c'est pas le terme d'inquiétude, hein, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il ne l'utilisait pas, mais le terme d'anxiété. Et ce qui me frappe dans ce texte, hein, qui est un texte de religion naturelle, hein, c'est un texte dans lequel il s'interroge sur la genèse du sentiment religieux, la genèse de nos croyances dans les dieux, parce que là, il ne vise pas nécessairement le dieu monothéiste, mais les dieux des païens. Et le point de départ de la naissance de ce sentiment religieux chez l'homme, paradoxalement, c'est la connaissance. C'est-à-dire que le sentiment religieux prolonge la curiosité, une curiosité native que les animaux, nous dit Hobbes, n'ont pas, la curiosité de connaître les causes des événements qui se produisent. Et cette curiosité nous conduit à nous interroger de manière causale, à l'aide de cette théorie de la causalité, sur ce qui va nous arriver. Que va-t-il nous arriver ? Donc, nous avons une inquiétude, une anxiété plus exactement, face à l'avenir, que la théorie de la religion que Hobbes nous propose ici, qui est une théorie naturelle de la religion, se donne pour but d'expliciter. Or, pour quelles raisons produisons-nous, en quelque sorte, l'idée de Dieu ? Nous produisons cette idée des dieux pour répondre à notre anxiété. En quelque sorte, l'idée du divin est une réponse à l'anxiété que fait surgir en nous notre aptitude à la connaissance. Et que fait surgir en nous aussi l'idée que nous aurions de la connaissance comme étant une connaissance par les causes, une connaissance déterminée. Donc ici, c'est très, très curieux parce qu'on a tendance à penser, on voudrait penser le religieux par rapport à une théorie de la superstition, détachée totalement de la connaissance. Or, on nous dit non, pas du tout. Les hommes sont religieux dans la mesure où ils sont capables de connaître. Alors, la question que vous posiez du rapport entre la puissance de Dieu dans le cadre du monothéisme, et la puissance de l'État, se développe dans un autre cadre. C'est sur cette question que j'avais, autour de cette question que j'avais travaillé pendant de longues années, ça a été un petit peu mon entrée dans le dossier Hobbes, hein, si je puis dire. Dans
le livre, Hobbes, votre livre s'appelle Hobbes, c'est la toute puissance de Dieu. Oui.
Et donc la question ici, c'est que dimension de la toute puissance que Hobbes considère, elle procède d'autre chose, c'est la représentation du divin que nous donnent les monothéismes, et notamment le monothéisme juif et le monothéisme chrétien. Hein, ce sont ces deux images, et la question qu'il se pose, il nous donne ici dans le chapitre 12 l'idée que la religion peut nous permettre de réguler en quelque sorte ce sentiment d'anxiété. Cela vaut également lorsque nous sommes confrontés non pas à la pluralité des dieux des païens, mais à l'unité du Dieu de la révélation. Donc il y a une sorte de régulation de notre anxiété dans le cadre de la relation religieuse. Mais cette régulation, à l'époque où Hobbes écrit, dans le cadre d'une guerre civile qui est aussi une guerre de religion, devient problématique. Pourquoi devient-elle problématique ? Parce que les croyants sont prêts à perdre leur vie, à sacrifier leur vie, pour conserver en quelque sorte ce lien de confiance qui les unit au Dieu dont ils pensent qu'il les protège.
C'est les anglicans contre les catholiques, en clair.
C'est dans le cadre de la guerre civile anglaise, ce sont les anglicans contre les sectes puritaines. Les catholiques ayant toujours eu une situation d'extraterritorialité, les catholiques étant effectivement pensés depuis la réforme anglaise comme des ennemis de l'intérieur. Hein, donc le statut des catholiques en Angleterre est très différent du statut du catholicisme en France, bien évidemment. Mais dans le cadre de la révolution anglaise, l'opposition, c'est une opposition sur la représentation de Dieu et la manière dont il faut organiser des communautés de croyants à partir de l'idée de Dieu. Et vous avez d'un côté des gens qui sont proches effectivement des catholiques, ce sont les anglicans, c'est-à-dire qui pensent une structure ecclésiale hiérarchisée avec des évêques, il n'y a pas de pape. Le pape de l'église anglicane, c'est le roi, avec des évêques. Et puis de l'autre, des sortes, alors une variété très grande, mais des millénaristes également, des gens qui pensent que la fin du monde est pour demain. Donc si la fin du monde est pour demain, l'anxiété, l'inquiétude est tellement grande qu'il faut immédiatement modifier nos manières de vivre. Alors que si vous pensez que la fin du monde est pour après-demain, bah on peut attendre.
Laisse un peu plus de temps.
C'est le catholicisme, c'est l'anglicanisme. Ce sont des formes de religion, effectivement, qui tiennent la peur de la fin du monde à distance. Donc, le conflit ici est un conflit entre deux représentations du divin et de ce que l'on doit faire du point de vue de l'organisation ecclésiale avec le divin. Et la théorie politique de Hobbes, sa théorie de la souveraineté, la puissance extrême dans l'ordre humain qu'il confère à l'État, doit répondre en quelque sorte à cette croyance dans une toute puissance divine. Et il y a là un conflit, ce conflit, on le perçoit encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas sortis de l'ère théologico-politique.
Non, mais pour Hobbes, la religion doit se subordonner à l'État.
Absolument, mais il a conscience aussi de la difficulté, c'est-à-dire du point de vue de la théorie. Du point de vue de la théorie, il nous dit l'ordre politique et l'ordre ecclésial doivent se superposer. Il ne doit pas y avoir... Et effectivement, c'est l'ordre spirituel qui doit l'emporter. Mais en pratique, on en discute encore. Les modalités de cet accommodement entre l'ordre, la puissance étatique et la puissance représentée, fantasmée de l'ordre du divin est encore une source finalement de débats, de discussions et parfois de conflits.
Avant de se quitter, Luc Foineau, faisons un détour par l'Amérique. Allons voir comment, dans un contexte historique, politique, sociologique différent, s'applique une forme de théorie héritée de celle de Hobbes, sous la plume d'Alexis de Tocqueville, qui dans De la démocratie en Amérique va, on peut dire, particulariser l'analyse de Hobbes en l'appliquant à l'état économique, à l'état libéral, au contexte de la démocratie. Et il décrit des Américains en proie à une inquiétude perpétuelle qui est liée à la fois à la poursuite du bien-être matériel et à l'ouverture des positions sociales.
J'ai vu en Amérique les hommes les plus libres et les plus éclairés placé dans la condition la plus heureuse qui soit au monde, il m'a semblé qu'une sorte de nuage couvrait habituellement leurs traits. Ils m'ont paru graves et presque tristes, jusque dans leur plaisir. C'est une chose étrange de voir avec quelle sorte d'ardeur fébrile les Américains poursuivent le bien-être et comment ils se montrent tourmentés sans cesse par une sorte de crainte vague de n'avoir pas choisi la route la plus courte qui peut y conduire. L'habitant des États-Unis s'attache au bien de ce monde comme s'il était assuré de ne point mourir, et il met tant de précipitation à saisir ce qui passe à sa portée qu'on dirait qu'il craint à chaque instant de cesser de vivre avant d'en avoir joui. Il les saisit tous, mais sans les étreindre. Il les laisse bientôt échapper de ses mains pour courir après des jouissances nouvelles. La mort survient enfin, et elle l'arrête, avant qu'il ne soit lassé de cette poursuite inutile, d'une félicité complète qui fuit toujours. Le goût des jouissances matérielles doit être considéré comme la source première de cette inquiétude secrète qui se révèle dans les actions des Américains et de cette inconstance dont ils donnent journellement l'exemple. Si au goût du bien-être matériel vient se joindre un état social dans lequel ni la loi ni la coutume ne retiennent plus personne à sa place, ceci est une grande excitation de plus pour cette inquiétude d'esprit. On verra alors les hommes changer continuellement de route, de peur de manquer le plus court chemin qui doit les conduire à bonheur.
Le goût des jouissances matérielles doit être considéré comme la source première de cette inquiétude secrète qui se révèle dans les actions des Américains. Luc Foineau, cette phrase a été écrite il y a bien longtemps. Elle s'applique à nos sociétés contemporaines.
Tout à fait.
Nous possédons, texte... mais nous ne savons pas jouir de ce que nous avons.
Absolument. Mais la logique... et celle que Hobbes décrit, c'est-à-dire on retrouve ici la définition même en action chez les Américains de la définition de la félicité comme une course perpétuelle d'un désir à un autre désir. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est l'extrême justesse de la remarque qui consiste à dire que le peuple américain est un peuple en mouvement. C'est un peuple en mouvement au sens propre du terme, il se déplace, il voyage... Il parle de tourisme dans ce texte également, mais c'est aussi un peuple qui est en mouvement dans son esprit. C'est-à-dire que la recherche des biens matériels suppose en quelque sorte une analyse permanente de la voie la plus directe pour réaliser le plus grand nombre de désirs. Or, c'est bien ce que Hobbes décrit et c'est aussi ce qui correspond à la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pensez à l'inquiétude des gens qui ne peuvent plus prendre le train. La situation de grève de la SNCF est emblématique également de cette société. Bon, on pourrait dire, bah voilà, on va rester chez soi, on va rester tranquille, et puis on ira travailler demain, etc. Non, l'interruption du mouvement est, dans nos sociétés, l'une des sources les plus considérables de l'inquiétude. Il y a là une vision, une figure de l'inquiétude contemporaine qui met en évidence et en avant, effectivement, la centralité du mouvement. Or, Hobbes, dans son autobiographie en vers, magnifiquement traduite par Jean Terrel, dit en 1636 que l'unique objet de sa réflexion est le mouvement. Donc, cette société qui est la nôtre est hobbesienne, non pas seulement parce que c'est une société dans laquelle il existe un État puissant, non pas seulement parce que nous avons une crainte les uns des autres, mais aussi parce que c'est une société qui repose intégralement sur le mouvement.
Le mouvement et donc implique une forme d'inquiétude, mais nous dit Hobbes, finalement, bonheur et inquiétude ne sont pas incompatibles.
Et c'est ça, la leçon paradoxale de la sagesse de Hobbes, c'est que finalement, il nous faut penser, parce que nous n'avons pas d'autre choix, il nous faut penser le bonheur dans le mouvement.
Voilà, donc c'est pas « don't worry, be happy », mais « do worry and be happy ».
Exactement.
Bon, on finira quand même avec « don't worry, be happy ». Il n'y a exactement pas encore eu de chanson avec « do worry, be happy », peut-être que vous viendrez la chanter. Merci à vous, Luc Foineau.
Merci à vous.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Hobbes, la vie inquiète, c'est le titre de votre livre, Luc Foineau, disponible chez Gallimard, en folio, essai, mais aussi Hobbes et la toute-puissance de Dieu, on l'a évoqué aujourd'hui, aux éditions PUF.
Don't worry, be happy.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même, incroyable.
Bonjour chère Géraldine.
Bonjour chère Adèle et bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, aujourd'hui vous vous penchez sur l'élection d'une philosophe qui a eu lieu le jeudi 3 mai et qui n'est pas une élection présidentielle.
C'est ça, c'est celle de Barbara Cassin à l'Académie française. Et c'est donc l'occasion d'entendre sa voix et de soulever quelques enjeux de la langue, écriture inclusive, ouverture des frontières qu'elle va rencontrer en sa nouvelle qualité d'immortelle.
J'avais une professeure qui a demandé « qui est Socrate ?» Et j'ai levé le doigt comme une bonne élève en disant « c'est un Athénien » et j'allais faire une énorme phrase et elle a dit « ça suffit ». Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça veut dire quoi que ça suffise comme définition un Athénien ? Bon. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai trouvé vraiment extraordinaire que ça puisse être un métier de se demander si Dieu existe ou s'il y a un principe de tous les principes. Que ça, on puisse en faire un métier, j'ai trouvé ça extraordinaire.
Barbara Cassin est philosophe, mais pas que, philologue, helléniste, pas enseignante, mais directrice de recherche au CNRS, autant intéressée par les enjeux intimes de la langue psychanalytique que les enjeux politiques de la traduction, on lui doit notamment un éloge de la traduction, le vocabulaire européen des philosophes ou dictionnaire des intraduisibles. Mention supplémentaire que l'on a pu lire dans les papiers qui ont relayé son élection, Barbara Cassin est une femme, et oui. Alors ce n'est pas anodin de l'avoir ajoutée, puisque depuis sa création en 1635 par Richelieu, l'Académie française n'a pu compter dans ses rangs que 9 femmes, 5 actuellement en comptant la nouvelle élue. Et ce n'est pas anodin non plus de l'avoir ajouté, puisqu'une des actualités de l'Académie, c'est d'avoir pris position contre l'écriture inclusive. Entre parcours pas exclusif, attachement aux intraduisibles et amour des définitions ouvertes, on peut s'attendre à ce que Barbara Cassin incarne une position eh bien, inattendue, justement. Avec elle, la langue française va-t-elle s'ouvrir, dépasser ses définitions et usages classiques, ou au contraire, persister dans l'idée que la langue doit demeurer telle, avec des zones d'intraduisibles et ne pas tout dire.
Moi, je suis helléniste et pour moi, ce qui est très clair, alors que, bon, le grec est une langue absolument magnifique et les textes en grec ancien sont des textes, je crois, dont tout le monde peut avoir besoin. Je veux dire, un texte comme la métaphysique d'Aristote qui commence par « Tous les hommes désirent naturellement savoir, mais vous en avez besoin, comme moi. » Bon, eh bien, ce qu'il y a là-dessous, malgré tout, c'est une appropriation de l'universel. C'est-à-dire que les Grecs appelaient « logos », ce que les Latins ont traduit très justement par « ratio et oratio », raison et discours.
À écouter Barbara Cassin, ce que l'on comprend, c'est que la langue grecque avait le défaut de sa qualité, celui d'identifier avec le terme de « logos » le discours et la raison universelle. Ce que pouvait dire la langue grecque acquérait par là même une raison, la raison, c'est-à-dire une existence légitime. D'un pouvoir dire, elle avait un pouvoir absolu. Mais qu'en est-il de notre langue française qui ne s'enracine pas que dans la Grèce antique et exclusive, mais aussi dans le latin, plus inclusif, à qui l'on doit le terme de traduction, soit étymologiquement passé à travers d'une forme à l'autre. Et de manière générale, est-ce à la langue que revient un tel pouvoir d'inclure ou d'exclure, de valider ou de prouver des existences et des manières d'exister, qu'elles soient politiques, physiques ou intimes ? L'Académie française, comme je disais, s'est prononcée en octobre dernier dans le débat sur l'écriture inclusive contre celle-ci. Mais faut-il en déduire, à l'inverse, que la langue se doit alors d'exclure et l'écriture d'être exclusive ? Entre ces deux positions, pour ou contre, réductrice d'une question passionnante en un débat manichéen, comment Barbara Cassin va-t-elle, elle, poser cette question de ce que peut une langue, pour les genres, certes, mais aussi pour les classes, les peuples et pour chacun ?
Mais il y a deux mots allemands pour dire nostalgie. Il y a un premier mot qu'on traduit alors sans hésiter par nostalgie qui est Heimweh, c'est-à-dire la maladie de chez soi, le retour de la maladie, de la souffrance de ne pas rentrer chez soi. Et le deuxième mot, au contraire, Sehnsucht, ouvre vers un ailleurs. C'est-à-dire que même si Mignon veut rentrer chez lui, c'est un chez lui qu'il ne connaît pas. C'est un chez lui qu'il peut aussi être une origine fictive et inventée. C'est un chez lui de statues de marbre, de citron, d'un autre monde.
C'était à votre micro, Adèle, que Barbara Cassin dépliait les sens de la nostalgie et de ce chez-soi que l'on peut s'inventer à travers une langue. Exercice de traduction et de philologie, elle nous prouvait, à l'instar du sous-titre de son éloge de la traduction, que l'universel se complique et qu'il a à se compliquer. Mais comment rester lisible tout en étant compliqué et complexe, compréhensif tout en étant accueillant pour chacun, universel tout en étant singulier ? C'est l'enjeu d'une question telle que celle-ci, que peut une langue ? De quoi est-elle capable ? Mais aussi, que peut-elle pour tous et chacun ? Et ce sera le défi de Barbara Cassin à l'Académie française.
Merci Géraldine. Alors vous nous conseillez de lire les ouvrages de Barbara Cassin à cette occasion ?
Exactement. Donc son éloge de la traduction que l'on peut trouver chez Fayard, le vocabulaire européen des philosophes ou dictionnaire des intraduisibles que l'on peut trouver au Seuil, une coédition Seuil Petit Robert.
J'ai un faible pour le dictionnaire des intraduisibles, unique en son genre. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Maud Markiewicz qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, David Pargamin, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie. C'était Nicole Garcia à la lecture des textes aujourd'hui et cette semaine. Olivier Bétard à la réalisation, Alexandre Dang à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de cette série d'émissions sur l'inquiétude. Après Philippe Roth, lundi, Thomas Hobbes, aujourd'hui, demain nous parlerons de Pessoa. L'auteur du livre de l'inquiétude ou du livre de l'intranquillité, c'est selon les traductions, nous verrons demain quelles sont les différences entre ces deux termes qui traduisent bien évidemment un seul et même terme en portugais que je n'aventurerai pas à prononcer à ce micro aujourd'hui pour vous. On verra ça demain. D'ici là, en tout cas, si vous voulez réécouter cette émission, c'est très simple, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous en ligne sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Sur France Culture, à midi, vous retrouverez la grande table d'Olivier Gesbert, mais il est 11h. Et 11h, c'est l'heure de Culture Monde par Florian Delorme.